Écoutez.
À Vevey, en direct, avec David Mechtri, qui est avec nous pour le festival Mozart et Debussy, qui court jusqu'à dimanche. David Mechtri, qui est, je le disais dans toute introduction à cette émission, peut-être au piano, ou à côté du piano de Delphine Bardin. Bonjour David.
Bonjour Benoît Perrier. Oui, c'est bien ça. On est ensemble autour de ce piano de Mieke Pfeiffer, ici dans un très bel endroit, qui est le salon Clara Askill de la Salle del Castillo à Vevey, pour cette à côté en direct de ce festival dont vous parliez, Mozart Debussy. Depuis hier soir, on associe ici le piano seul de Debussy avec les concertos de Mozart, les concertis, on peut dire aussi. Et une de ses interprètes du festival est avec nous, Delphine Bardin. Et on va entendre donc, on va parler de l'interprétation de Debussy exclusivement dans cette émission, puisque c'est l'anniversaire de la mort de Debussy il y a juste 100 ans. On va parler de deux grands cycles aussi que Delphine va jouer en concert demain et dimanche, qui sont les images et les études. Une brève présentation de notre invitée maintenant, Delphine Bardin, qui est familière, peut-être pas des lieux directement, je ne sais pas si vous connaissiez ce salon Clara Askill, mais du nom de la grande pianiste roumaine, puisque vous êtes une des lauréates de ce célèbre concours Clara Askill il y a 20 ans. Vous étiez ici à Vevey, vous avez eu d'autres occasions de revenir dans cet endroit de la Riviera suisse.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis revenue très souvent, très régulièrement depuis 20 ans maintenant, notamment, enfin, essentiellement grâce à Christoph Schenk, qui organise ces concerts aujourd'hui et qui, depuis 20 ans, m'a fait confiance pour différents projets.
Un projet donc qui vous amène ici autour de Mozart et Debussy, c'est simple, c'est un défi de mêler les deux compositeurs dans des pièces pour orchestre, avec orchestre, et des pièces solo dans un concert. C'est assez inhabituel, Delphine Bardin.
Oui, je dois dire, je ne l'ai jamais fait, mais mêler Debussy à Mozart, finalement, c'est, il y a vraiment une grande logique, donc après, le défi, c'est nous, si on est capable de le faire ou pas, mais dans l'idée, je trouve que l'idée poétique, l'idée de rapprocher ces deux façons de faire sonner le piano, en fait, il y a vraiment une très grande logique.
L'orchestre est celui des Dresdner Kapellsolisten, qui sont là donc depuis hier soir, qui jouent une dizaine de concerti donc de Mozart. Et vous allez jouer le tout premier, et puis d'autres pages, effectivement. Est-ce que ça éclaire la musique de Debussy, on peut dire, Delphine Bardin, de jouer Mozart, d'imaginer Mozart qui était un modèle? Claude Debussy a révéré son grand-oncle Mozart, comme il l'appelle dans sa correspondance.
Oui, je pense que ça s'enrichit, Debussy, enfin le travail sur Mozart enrichit le travail sur Debussy, et réciproquement aussi. C'est peut-être, il y a des parallèles vraiment en fonction aussi des œuvres qui sont choisies, donc des œuvres du milieu de Debussy et de Mozart, et des œuvres de la toute fin. Et effectivement, même si le piano ne sonne pas de la même façon, il y a quelque chose de commun à un moment, la richesse du piano, vraiment, c'est comme une splendeur, enfin, aussi bien dans le 15e concerto de Mozart, qui est du milieu, que dans les images. Et après, le piano sonne toujours, bien sûr, d'une façon extraordinaire, mais l'écriture, aussi bien chez l'un que chez l'autre, se raréfie. En fait, on a peut-être un peu, on a moins de notes.
D'accord. Vous allez commencer par nous jouer maintenant avec le public, un public très choisi qui est venu nous écouter. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de venir voir une émission de radio dans ce salon Clara Askill à la Salle del Castillo à Vevey. Vous allez commencer par nous jouer une de ces images, ces deux cycles de trois pièces, les images écrites entre 1904 et 1907, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et les pièces sont des titres souvent très imagés, la lune descend sur le temple qui fut, mais celui que vous allez jouer maintenant, qui est peut-être plus vif, s'appelle tout simplement Mouvement. C'est la troisième image du premier livre.
Thank you.
Merci Delphine Bardin, en direct pour les auditeurs de Versus et pour le public de ce salon. Clara Askill à Vevey, si vous êtes en ce moment en train d'écouter l'émission depuis la place du marché à Vevey, n'hésitez pas à monter et nous rejoindre pour cette demi-heure en à côté à ce festival Mozart Debussy et cette belle image qui s'intitule Mouvement, donc de Claude Debussy, que vous nous jouiez avec beaucoup de virtuosité, Delphine Bardin, très vive. Un mouvement, c'est-à-dire une sorte de mouvement perpétuel, moto perpétuel, c'est ça qu'a voulu faire Debussy dans cette composition avec beaucoup de jeux, côté ludique, qu'on voyait vos doigts se croiser sur le piano.
C'est toujours la splendeur pianistique de Debussy qui est bouleversante, mm-hmm. en fait, parce que imaginer tout ça, c'est bien sûr, c'est pas de la virtuosité, là, c'est vraiment la poésie qui est transcendée par tout ce qu'on peut faire avec un piano. Et oui, par rapport à. Au titre, c'est comme un perpétuum mobile, effectivement, parce qu'on a toujours les triolets qui passent d'une main à l'autre et les croches. Mais les croches vont disparaître à certains moments aussi dans tout le milieu. Là, on a simplement les triolets qui reviennent. Mais oui, c'est l'idée, bien sûr, d'un mouvement, de peut-être. Je ne sais pas, on peut imaginer, je ne sais pas, Debussy n'a rien écrit à ma connaissance sur ce mouvement-là en particulier, mais on sait qu'il était très sensible à la nature, donc ça peut être le mouvement des nuages, de la mer, enfin, tout ce qu'il voit et que les autres ne voient pas forcément.
Et le mouvement digital que vous nous avez montré, Delphine Bardin, il est difficile à mettre en place. C'est une étude de longues années, j'imagine, pour interpréter cette musique. C'est beaucoup plus exigeant que Mozart, dont on parlait tout à l'heure, et que vous associez à Debussy dans un des concerts que vous allez donner.
Non, je dirais pas que c'est plus exigeant, c'est aussi exigeant, c'est d'autres chemins. En même temps, si ça semble difficile et que ça sonne pas bien, finalement c'est notre faute en tant qu'interprète, parce que c'est tellement écrit d'une façon, c'était quand même des pianistes, aussi bien Mozart que Debussy. Debussy a beaucoup moins joué que Mozart, mais les quelques enregistrements sur rouleau qu'on peut écouter très facilement d'ailleurs sur YouTube.
On en a entendu un hier.
Oui, avec Alain Planès. Et ça montre vraiment une richesse de timbre, une poésie. C'est des compositeurs qui vraiment savaient écrire pour le piano, tout simplement. Mais bien sûr, c'est très difficile.
On va tourner la page du deuxième livre de ces images et s'attacher au premier la première de ces trois pièces que vous allez aussi jouer demain en concert, sauf erreur, demain ou dimanche, j'ai un doute, ça sera demain. Ça s'appelle Cloche à travers les feuilles, le titre illustre typiquement cette idée de l'amour de Debussy pour la nature et d'un nouveau son de piano finalement qu'il invente. C'est un piano très descriptif, c'est une sorte de peinture qu'il veut faire avec sa musique, Delphine Bardin.
Oui, j'ai l'impression. Enfin, mais bon, une peinture qui passe par lui aussi. Enfin, ses impressions à lui, c'est sûr.
Ah, vous avez dit le mot impression. Là, on a le fameux qualificatif d'impressionniste qui a été donné de façon très péjorative d'abord au peintre et puis ensuite aux musiciens de cette époque autour de Debussy qu'il n'aimait pas beaucoup. Je crois qu'on parle d'impressionnisme. Enfin, il trouvait que c'était un qualificatif et qu'il ne faut pas finalement réduire la musique à des mots. C'est ça?
Oui, je ne sais pas exactement ce qu'il pensait par rapport à ça, mais bon, ça dépend déjà comment on veut définir le mot impressionniste. S'il s'agit d'impressions un peu floues et pas très définies, effectivement, ce n'est pas vraiment ça, puisqu'il y a des choses quand même très. C'est pas une musique floue, c'est une musique qui a beaucoup de poésie, beaucoup de sons très vaporeux, mais c'est une musique aussi qui a, comme chez Chopin d'ailleurs, une structure aussi dans le son. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, je l'imagine. C'est ce que j'ai cru percevoir aussi en entendant Debussy jouer lui-même. Il y a un grain de son, il y a des plans sonores et vraiment des choses très fortes aussi.
Et dans Cloche à travers les feuilles, on va entrer un peu dans la partition, puisqu'on a ce privilège ici au salon Clara Askill à Vevey, avec vous Delphine Bardin. Il y a vraiment des cloches qui sonnent, on entend aussi le bruissement des feuilles.
Oui, je pense qu'on peut vraiment entendre les cloches presque mieux que que si on les écoute en vrai, en fait, c'est vraiment une pièce avec des timbres. Je sais pas si je peux peut-être montrer quelques exemples. Bah déjà, en fait, les notations de Debussy sur la partition sont indique quelque chose d'une réalisation technique et poétique. Par exemple, ici, là, je vous lis ce qu'il a mis comme une buée irisée. Donc, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, les sons qu'on entend. Enfin, moi, j'imagine, bon, je sais pas, peut-être Debussy serait pas d'accord. Je peux juste vous dire ce que je lis et ce que j'imagine. C'est un peu comme les cloches, quand on entend des cloches dans la nature. La Veuvée, vous avez des très jolis carillons. Au bout d'un moment, il y a d'autres sons, en fait, qui se dégagent. Il n'y a pas juste les sons des cloches. Et en fait, c'est un petit peu ce dont on a l'impression ici, en fait, avec les cloches au début. C'est vraiment les sons. Et puis après, il y a les... C'est presque les sons imaginaires, en fait, ce qu'on appelle les harmoniques, mm-hmm. qui se dégagent. Il dit aussi...
Oui, vous tournez la partition, je lis presque rien.
Oui, expressif, il y avait autre chose, oui. Un peu plus animé et plus clair, donc l'idée de cloche qui soit moins dans la brume. Et comme toujours chez Debussy, c'est les plans sonores qui sont très importants. On peut avoir justement ici ce halo un petit peu, et en même temps on a une... quelque chose ici de plus présent et un son plus cuivré. Donc c'est vraiment un piano en trois, même quatre dimensions.
Et comment l'interprète aborde ses œuvres en commençant, travaillant chaque plan, en lisant d'abord? Comment est-ce que vous travaillez, vous, Delphine Bardin, pour apprendre cette musique?
L'apprendre, je sais pas. Dans le cadre de Debussy, finalement, j'ai l'impression qu'on commence à l'apprendre avant même de, enfin, tout
par
ce qu'on,
tout,
oui, enfin, tout ce qu'on a vu avant. Enfin, c'est un peu ce que disait Rilke dans les lettres, un jeune poète, que pour écrire, il faut, ça dépend un peu de ce qu'on a vécu avant. Et là, en fait, bien sûr, il y a le texte à apprendre et ça reste, il faut vraiment il faut essayer de l'apprendre comme on peut. Mais je veux dire, toutes ces images de cloches, toutes ces impressions de mouvement, toutes ces choses-là, c'est des moments, en fait, qu'on a pu vivre avant. On a pu entendre des cloches avant, on a pu voir un ciel avant, bien avant de travailler ces musiques, qui peuvent aider, à mon avis, c'est un travail vraiment de d'avant, en fait. Et après, bon, il y a la réalisation, évidemment, au piano, enfin, c'est vraiment beaucoup, essayer d'écouter le plus possible. Justement, ces plans, chez Debussy, c'est beaucoup aussi les jeux des pédales, en fait. On a toujours besoin de pédales, de demi-pédales, en fait, qui laissent un peu respirer. Enfin bon, après, c'est...
Qui sont pas tellement indiquées dans les partitions, il me semble.
Non, aussi. Il a rien indiqué, parce que ça serait impossible. Ça dépend vraiment de l'interprète aussi. On peut choisir ici... de tout mettre dans la pédale. Là, j'ai tout laissé. Ou alors, on peut la vibrer un petit peu. Donc ça, c'est un peu selon chacun, selon la salle, selon...
Et l'écriture pour piano, elle est très naturelle pour vos doigts, Delphine Bardin. C'est un pianiste, on parlait brièvement de Chopin tout à l'heure, on va y revenir aussi, puisque l'analogie se fait souvent. C'est un piano qui est très naturel pour... la digitalité, par exemple.
Je dis pas qu'il est facile, mais quand je n'arrive pas à faire quelque chose, je me dis que vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est mon problème, parce que c'est tellement écrit d'une façon qui va vraiment, c'est comme Chopin, comme vous disiez, qui va vers le piano. Il y a des compositeurs qui plutôt vont contre le piano, ou qui, enfin, ça peut être magnifique aussi, hein, ou qui s'en servent.
Des noms. Beethoven, par exemple, ou...
Peut-être plus, oui, Beethoven, ou peut-être des compositeurs disons que peut-être qui le bousculent un petit peu, qui vont pas forcément, à mon sens, le prendre dans le sens du poil, je sais pas comment dire. Là, chez Debussy, en fait, on sent vraiment, c'est comme un vin qu'on débouche et tout de suite, il y a la bonne odeur du vin.
Très bien. Et ces parfums de Debussy, est-ce qu'il y a une évolution aussi au fil de sa carrière assez brève, hein, puisqu'on commémore les 100 ans de sa disparition, il avait à peine 56 ans, si je calcule bien. Ça fait presque l'âge de Beethoven dont on parlait aussi. Donc une carrière plutôt brève, mais tout de même une évolution. Les pièces du début sont moins révolutionnaires, peut-être. Les images dont vous venez de nous montrer des extraits, c'est autour de 1905. Et puis, on va aborder un autre recueil que vous allez jouer dans ce festival Delphine Bardin, qui sont les études. C'est vraiment là la fin de l'œuvre de Debussy. Il y a une progression, vous diriez?
Oui, je trouve, enfin, depuis le début, on sent ce lien avec le piano qui est inimitable. Après, il y a toujours cette façon quand même presque sensuelle vraiment d'écrire pour l'instrument. Vraiment, ça sonne, il y a les plans, c'est vraiment comme si on mettait les mains dans la peinture. C'est un petit peu ça. Dans les études, donc, qui sont vraiment cette dernière pièce.
1915.
Oui. L'écriture se raréfie un petit peu. Il y a peut-être, je ne sais pas si je dis juste, mais peut-être un peu moins de charme, peut-être. C'est peut-être un peu plus abrupt quelque part, mais l'écriture reste d'une très grande beauté pour l'instrument.
Plus abrupte parce que c'est aussi des études, comme leur nom l'indique, avec chaque fois une indication pour les cinq doigts, pour les tierces, pour les notes répétées, etc. Ce sont vraiment des pièces pédagogiques.
Oui, dans le sens de le plus élevé de la pédagogie, c'est-à-dire montrer tout ce qu'on peut faire de beau avec un instrument. Oui, là effectivement, on peut dire que c'est des pièces pédagogiques, mais c'est des pièces qui vont extrêmement loin. Je pense que ce cycle des études, c'est certainement un des cycles les plus importants pour la musique de piano du XXe siècle. C'est un monument. C'est peut-être vraiment la quintessence de tout ce que Debussy a fait avant, de tout ce qui, c'est des pièces aussi presque qui regardent en avant aussi. Le langage aussi harmonique est vraiment d'une richesse incroyable. Et puis, on ne pourrait pas enlever une note.
Ces 12 études, comme celle qu'avait publiée un jeune pianiste au début du 19e siècle, Frédéric Chopin, qui avait fait aussi date dans l'histoire de la musique de piano, l'opus 10 de Chopin, 12 études auxquelles fait référence forcément Claude Debussy lorsqu'il compose les siennes.
Oui, d'ailleurs, le cycle est dédié à Chopin. Il avait hésité entre le dédié à Couperin, qui l'a beaucoup inspiré également, et Chopin. Et finalement, ça a été dédié à Chopin, mais bon, dans son idée, je pense aussi, c'est très lié à Couperin. Et oui, pardon, je me suis éloignée de votre question.
Frédéric Chopin, c'est... Et on va peut-être entrer à nouveau, puisqu'on est devant un piano, le piano Pfeiffer, qui est ici au salon Clara Askill de la salle Del Castillo à Vevey. Dans une de ces études, vous avez choisi celle pour les sixtes. Donc, il s'agit de faire des sixtes et d'agrandir peut-être l'espace entre les doigts. Delphine Bardin, c'est ça au début, c'est indiqué lento. C'est une des études où les indications sont en italien. Il y en a d'autres où ça s'appelle sagement ou décidé, rythmé, où Debussy fait le français. Là, c'est une étude mezza voce. Avec ça a une différence entre les pièces quand il parle italien ou quand il parle français dans sa musique, Debussy.
En fait, pour être sincère, je n'avais pas remarqué. Donc c'est bien que vous me le disiez. Vous voyez, on a un texte, mais finalement, on voit un tout petit peu de ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas, c'est peut-être un hasard. Enfin, je ne sais pas. En même temps, là, par exemple, il y a beaucoup d'endroits marqués rubato et il n'y a pas forcément un terme en français qui peut le dire.
On pourrait entendre le début de cette étude pour les sixtes de Debussy pour voir.
Pardon.
Donc, l'intervalle de sixtes est utilisé là pour les mains et ensuite une poésie et ce mezza voce, donc c'est bien plus qu'un exercice, Delphine Bardin.
Bah oui, parce que quand on voit le contenu musical, c'est certain que, bien sûr, tout du long, il y a des sixtes, donc qui sont seuls ou bien qui vont se superposer. Il écrivait d'ailleurs à son éditeur Jacques Durand qu'il avait fait c'était des harmonies en fait uniquement avec des sixtes, puisque on n'a pas par exemple forcément une note et puis une sixte là, mais seulement des sixtes qui vont suggérer l'harmonie.
Puis oui, vous me signaliez, Delphine Bardin, une très jolie citation aussi de Debussy dans sa correspondance à Jacques Durand, son éditeur. C'est en août 1915, je vais la lire. « Pendant très longtemps, l'emploi continu des sixtes me faisait l'effet de demoiselles prétentieuses assises dans un salon, faisant maussadement tapisserie, en enviant le rire scandaleux des folles neuvièmes. » Or, j'ai écrit cette étude où le souci de la sixte va jusqu'à n'ordonner les harmonies qu'avec l'agrégation de ces intervalles. Et ça n'est pas vilain, mea culpa. L'esprit toujours de Claude Debussy dans cette écriture musicale. Mmh. D'autres passages peut-être à souligner de cette étude qui... Et puis peut-être faire un parallèle aussi avec Chopin dont on a parlé tout à l'heure, Delphine Bardin.
Oui. Au début, donc les sixtes apparaissent seules, un peu désolées comme ça, et après, donc déjà dès la troisième ligne, on va avoir la main gauche qui va rejoindre. Et c'est vrai que ces superpositions de sixtes, ça donne une couleur et une atmosphère très très spéciale. Et après, les sixtes sont utilisées dans une façon, d'une autre façon, au milieu. Donc un peu moins comme deux instruments, comme j'imagine un peu des corps anglais ici ou des hautbois. Là, on va avoir quelque chose de plus furtif. La main gauche va rejoindre aussi. C'est vraiment une splendeur. Et après, en fait, à la fin, on va avoir de nouveau l'écriture plus rare, plus raréfiée en fait du début, avec simplement quelques sixtes. C'est cette pièce est vraiment, bien sûr, on pense pas du tout aux vieilles demoiselles prétentieuses. Cette pièce, en fait, bon, mais ça c'est tout à fait personnel. Ça me fait vraiment penser à des pièces comme les quatre derniers leaders de Strauss. C'est vraiment des pièces qui, pour moi, ça va aussi loin dans l'expression, dans l'intériorité.
Dans la couleur aussi, donc des couleurs très post-romantique, on pourrait dire. Delphine Bardin, Debussy aurait peut-être pas aimé que je...
Je sais pas, je sais pas comment dire, enfin c'est quelque chose, je sais pas si je dirais post-romantique, enfin vous avez sans doute raison, mais je dirais c'est vraiment une façon...
Très personnelle aussi, Debussy avait sa musique dans la tête.
Oui, c'est très profond, je sais pas, ses études, bon il était... On peut pas vraiment faire des choses biographiques. Je pense que Debussy, ça lui aurait pas plu, mais quand même, ses études ont quand même été écrites, déjà dans un laps de temps très court, entre début août et tout début septembre, si je me trompe pas, ou donc fin septembre 1915.
Donc,
oui. Et c'est le dernier moment, en fait, où Debussy, qui était quand même déjà très malade, c'est le dernier moment où il a pu travailler tranquillement. Il disait lui-même qu'il avait recouvré la faculté de penser musicalement. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'urgence, je trouve, de dire avec ses notes. Et en même temps, quelque chose quand même qu'on peut imaginer quand même crépusculaire, c'est sûr, par rapport à des pièces comme Clair de Lune, des pièces du début. Ici, on a... Déjà, avec ça, il y a quand même souvent des notes qui font un peu mal, je trouve,
c'est
dedans.
Puissant.
Oui.
Dans les études de Frédéric Chopin, qu'on pourrait mettre en parallèle Delphine Bardin, il y a aussi une étude qui s'attache spécialement au sixte aussi, ou qui étudie, j'allais dire, cet intervalle ou ce genre de demoiselle.
Oui, là Chopin s'en sert dans une tonalité de bémol aussi, comme Debussy. Et là, tout de suite, en fait, dès le début, les sixtes sont utilisées, c'est pas un joli mot, mais oui. Bon, Chopin présente des sixtes, plutôt, ça n'a pas le caractère désolé enfin que j'imagine un peu désolée de Debussy, mais on a plutôt tout de suite un halo en fait qui est, excusez-moi, je l'ai pas dans les doigts malheureusement, mais
très bien.
On a les basses qui portent, d'ailleurs ça Debussy le fait aussi tellement souvent, et c'est sixte donc à droite et à gauche, et en fait Chopin reste avec cette idée des sixtes à droite et à gauche toute l'œuvre.
Ça donne effectivement envie maintenant d'entendre, et on va peut-être se quitter avec ça, Delphine Bardin, avant de vous entendre dans ces concerts qui auront lieu demain et dimanche. Il y aura aussi un après-midi qu'on va partager autour de textes de Debussy et de Monsieur Mozart. Et on va se quitter avec cette étude, la quatrième étude de Claude Debussy, que vous allez nous jouer en entier pour le public de ce salon. De ce salon Clara Askill à la salle del Castillo à Vevey, en marge donc de ce festival Mozart Debussy. Merci beaucoup de tous ces éclairages, Delphine Bardin. Thank you. Merci infiniment Delphine Bardin de cette interprétation, de ces éclairages sur Debussy. Vous me mettez aussi dans les mains une dernière citation. On va laisser le dernier mot au musicien, compositeur fêté donc pour les 100 ans de sa disparition cette année 2018. « La musique est partout », disait Debussy. « Elle n'est pas enfermée dans des livres, elle est dans les bois, dans les rivières et dans l'air. » Et cette musique de Debussy, sous vos doigts, Delphine Bardin, notamment ces deux cahiers d'études, on les entendra dimanche, qui encadreront le dernier concerto pour piano de Mozart avec les Dresdner Kapellsolisten d'Helmut Brani à la fin de ce festival Mozart-Debussy. Et on va rendre l'antenne maintenant depuis cette très belle place du marché à Vevey, à la salle d'El Castillo, où le soleil commence à faire évaporer les nuages et où le lac scintille. À vous Lausanne, Benoît Perrier, merci beaucoup de nous avoir accueillis donc depuis ce salon Clara Alskill pour Versus Écouter.
Merci David, quel plaisir de vous avoir entendu dans, pas vous dans la musique de Debussy, mais Delphine Bardin et vous qui l'accompagniez, faire ainsi vivre la musique de Debussy, ses détails, ses recoins, ses secrets. Beaucoup de plaisir à avoir passé ce moment avec
merci
vous
Benoît.
Pour donc ce festival Mozart et Debussy, vous le disiez, qui court encore jusqu'à dimanche.